Pourquoi j'ai mal? Pourquoi aller chez la gynéco ou m'angoisse? Pourquoi ma sexualité ne ressemble pas à ce que je vois, à ce que j'entends autour de moi? Pourquoi je ne suis pas normale? Bienvenue sur Journal des Vulves. Deux fois par mois, c'est une discussion sur des sexualités en dehors des normes qui s'ouvrent, pour faire la paix avec sa vulve. Ce podcast, c'est un peu comme le rendez-vous chez la psy manqué, l'occasion de parler de ce qui va pas.
Until I started to feel physical pain, then I had to go to the doctor. Because I didn't know what was wrong with me.
L'important, c'est de trouver cette liberté de parole par rapport à une douleur au moment de la pénétration.
Établisse tout doucement la relation que tu entretenais avant avec ton corps.
Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
Which many people don't think is even real, and I don't even know what the fuck to say about that.
Mais comment veux-tu kiffer si avant, pendant et après l'acte, tu penses plus à comment tu plais plutôt qu'à ce que tu veux, ce qui te fait kiffer et comment y arriver?
Je veux dire, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes.
Je veux juste redevenir celle que j'étais.
J'interromps ta lecture de l'épisode pour te prendre 10 secondes. Est-ce que tu te souviens de cette voix?
Si tu savais ça, pourquoi tu m'as amené me faire exciser en fait?
Et ça n'existe pas une femme noire forte. On est oui, on peut être forte, mais on n'est pas invincible en fait. Si Dieu m'a créé comme ça, ça veut dire que lui, je suis beau à ses yeux. Donc moi, je m'en fous des hommes, moi. J'étais destinée à vivre ça en fait.
Fatou était la première invitée au micro. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'est publié le livre Penser l'excision que j'ai coécrit avec elle et qui revient sur son parcours et pense au-delà de l'excision. Si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens en barre d'infos. Il est disponible dès à présent sur Amazon, la Fnac et tu peux le commander aussi dans ta librairie près de chez toi. Si tu le lis, n'hésite pas à nous taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger avec toi dessus. Ça nous ferait très plaisir. Dans l'intro du podcast, je te parle du sentiment d'être anormal que certains et certaines peuvent ressentir. De la construction de ses désirs à la découverte de sa bisexualité, en passant par une révolution féministe, l'invité d'aujourd'hui nous parle sans tabou de son rapport avec sa vulve.
Il y a un rapport assez sain depuis toujours, parce que, en vrai, c'est peut-être un peu bizarre, mais je pense qu'elle correspond aux normes, enfin en tout cas, elle a toujours un peu correspondu à ce que j'ai vu dans les films porno, tu vois, donc première représentation. Vraiment en termes d'anatomie basique, tu vois, genre grandes lèvres, petites lèvres et tout, je me suis jamais vraiment dit attends, c'est pas exactement la norme ou quoi. Après, c'est peut-être plus les poils qui posaient problème, parce que t'as vu mes cheveux sont quand même épais, et du coup bah je suis assez poilue par nature, et dans les films porno c'est pas vraiment ça qu'on te montre, ce qui fait qu'en fait quand j'étais au collège, avec le recul c'est marrant, mais en vrai c'est quand même un peu triste. Bah, je sais que je parlais tout le temps de genre ma première fois, genre comment je la projetais à mes meilleurs potes, et je disais tout le temps ouais, je sais que moi, ma première fois, c'est impossible que je sois pas épilée intégralement, tu te rends pas compte et tout machin. Donc de base ça s'est toujours plutôt bien passé, et en même temps les poils c'était quand même un gros frein à l'amour de moi-même, tu vois, enfin l'amour de ma propre vulve.
La pornographie a joué un rôle important dans tes représentations du corps et de la pratique?
La pornographie, c'était un peu compliqué, parce que ma mère, elle m'a toujours tenu un discours qui faisait que, pour moi, la pornographie, c'était pas quelque chose de normal que j'en consomme. Enfin, je veux dire, moi, j'ai commencé à en consommer au collège. À ce moment-là, tu te sens très seule, enfin, en tout cas, quand t'es une fille. Quand t'es un garçon, c'est vraiment autre chose, mais en tant que fille, quand tu commences à consommer, moi, je devais avoir 12-13 ans, t'as vraiment l'impression de faire un truc pas normal, que c'est beaucoup trop tôt et que t'es un peu la seule à faire ça. Et en fait, en parlant avec mes copines des années après, je me rends compte qu'on a à peu près toutes commencé au même âge. Il n'y a pas de normes, tu vois. Genre, il y a des gens qui n'en consommeront jamais, il y a des gens qui commencent très tôt. Mais en tout cas, dans mon entourage, on a commencé toutes à peu près au même âge. Et c'est bizarre, parce que tu te retrouves des années après à te dire « Ah ok, donc en fait, on faisait tout ça, on a toutes à peu près le même vécu, et on se sentait toutes très seules et très sales. » Et pour revenir à ma mère, elle m'a toujours tenu ce discours de, en gros, la pornographie, pas profondément, c'est pas bien, mais ouais quand même, genre c'est un truc qui véhicule de très mauvaises choses, genre domination homme-femme et tout, et en soi elle avait complètement raison, elle a vraiment raison sur toute la ligne, il y a tellement de choses à revoir dans la pornographie actuelle. Mais en même temps, moi, ça, en tant que petite meuf collégienne, je me disais ah ok, donc ma mère elle pense ça, donc ça renforçait le truc de pourquoi je regarde ça, c'est chelou, je devrais pas, c'est pas bien et tout, enfin voilà. Et oui, dans mes images générales, ça a complètement tout influencé, et en vrai je pense que ça continue d'influencer, enfin ça nous donne des schémas et des cadres de comment devraient se passer genre les rapports sexuels, qui sont dans lesquels c'est très dur de sortir, je pense, enfin notamment il y a un enchaînement très particulier, tu vois, en mode très préliminaire et puis préliminaire très axé sur le garçon mais pas sur la fille, donc en fait toi directement tu comprends que ton plaisir sera pas essentiel, et en même temps après la meuf elle commence à crier de ouf pendant une pénétration et t'es en mode ok, donc en fait une pénétration genre basique pénis vagin ça fait cette sensation là genre c'est t'es censé bah en tout cas de ce que t'en vois t'es censé avoir un orgasme, puis en fait quand t'as des premiers rapports tu te rends compte que bah ça se passe pas comme ça et que t'es pas censé avoir la performance au cœur de ton rapport et tout, tu vois, donc compliqué.
Comment on se construit sexuellement quand on vit juste avec une figure maternelle ?
C'est paradoxal parce que ma mère, elle m'a toujours éduquée en mettant un peu au cœur de ces discussions sur la sexualité et tout, le fait que c'est mon corps et qu'il appartient qu'à moi et que personne n'a le droit d'en faire ce qu'il veut sans que je sois consentante. Donc ça a vraiment forgé, mais genre depuis que je suis toute petite. En vrai, je pense que c'est vraiment une chance qu'elle m'ait... Camille ça depuis que je suis toute jeune. Et en même temps, à côté de ça, t'as la société et le porno qui s'opposent un peu quand même à ce discours-là. Donc je pense que c'est dur de l'intégrer à 100%. Genre tu te dis, oui ok c'est mon corps, t'intègres un peu la notion de consentement. Et en même temps, c'est quelque chose que tu vas pas du tout voir dans les films porno, ou même parfois dans les films de manière globale. C'est... Je sais pas, t'as quand même un peu... Enfin, je vais pas partir dans des grands discours de culture du viol, tu vois, mais on va dire que c'est moins clair. C'est moins clair que l'idéal que ma mère m'a toujours montré, en mode c'est ton corps, les relations sont égales et tout, enfin... Tu vois. Je suis assez indépendante et assez sûre de moi sur pas mal de trucs, et donc j'arrive à me détacher de son regard. Enfin, j'ai pas besoin de sa validation permanente, en tout cas j'ai l'impression, et en même temps... quand même énormément, parce que bah comme on a grandi comme j'ai grandi avec elle uniquement, tu vois, genre pas de figure paternelle et pas de frères et sœurs, il y a un truc très très relié entre nous, enfin pas forcément une relation fusionnelle, ou alors peut-être que ça l'était par le passé et que ça l'est moins maintenant, mais du coup une relation quand même très 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 privilégiée et très sur un piédestal comparé à ce que j'ai pu voir chez d'autres amis à moi par le passé ou aujourd'hui. Mais par exemple, la sexualité, tu vois, quand j'étais au collège, on était vraiment, vraiment, je pense, fusionnels. Et je lui avais toujours dit, moi, mes premiers rapports, je t'en parlerai, tu le sauras, tu seras complètement au courant et tout. Parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment une évidence. C'était presque un pacte entre nous deux qui viendrait valider notre complicité et notre relation, tu vois. Pas non plus dans un sens malsain, genre je vais te raconter en détail ou quoi, ça j'avais de la vie, au contraire, c'était vraiment très mesuré, genre je vais te raconter mes premiers rapports, par contre ça sera pas du tout dans les détails ou quoi, parce qu'au contraire en fait on avait une relation tellement proche, enfin on a une relation tellement proche, que j'ai toujours eu un malaise très profond qu'elle puisse me sexualiser et que moi je puisse la sexualiser, tu vois. Donc mes idées étaient quand même très claires, juste tu seras au courant, je te raconterai. Et en fait... lors de mes premiers rapports, que ce soit genre prélit ou autre, en fait sur le moment je me suis dit ah non, j'ai pas du tout envie de lui en parler, pas pour lui cacher quelque chose ou parce qu'on était moins proches ou quoi, mais en fait je me rendais compte que je grandissais et que c'était des choses qui m'appartenaient complètement à moi et que j'avais complètement le choix d'en parler ou non, que ce soit à mes amis, à ma mère. Donc je crois que c'est peut-être pour ça en fait que je dis quand même que j'ai pas à 100% besoin de sa validation. C'est parce que j'ai fait toutes mes premières expériences sans vraiment lui en parler. Et elle a un peu suivi ça. Elle a un peu suivi ça de loin, tu vois. Genre, je lui disais à demi-mot, si, il s'est passé un. J'ai déjà fait un peu des trucs et tout. Enfin, c'était un peu pas très clair, tu vois. Genre, j'essayais de lui faire comprendre qu'il s'est passé des trucs ou quoi. Bah, typiquement, on part dans les anecdotes, mais je devais faire un examen gynécologique pour lequel tu dois avoir fait ta première fois. Bon, on peut questionner ça et je trouve ça un peu bizarre, mais c'est un truc anatomique, tu dois avoir fait ta première fois. Et du coup, moi, je disais à ma mère un jour, oh, j'ai la flemme de faire cet examen, la sonde, tout ça, machin et tout. Et là, elle m'a dit, oui, mais... Elle m'a dit un truc du genre, mais il faut que tu attendes tes premiers rapports, je sais pas quoi. Et du coup, je l'ai regardée et j'ai dit... Bah oui, j'ai déjà fait mes premiers rapports. Et là, il y a eu un peu un malaise, un petit malaise latent, genre on s'est regardé et c'était bizarre parce qu'en fait, moi, je pensais qu'elle savait vu que j'avais déjà fait quelques allusions, mais en fait, les allusions, elles, c'était pas très clair. Donc en fait, elle savait pas. Et même là, encore récemment, il y a encore eu un petit malaise où elle a cru que je lui avouais que j'avais jamais fait mes premiers rapports. Alors qu'en plus, bah, du coup, ça fait des mois, voire des années que je lui en ai déjà parlé. Donc je me suis dit, mais comment elle peut penser que j'ai pas fait mes premiers rapports? Et bref, donc il y a une grande, grande importance de ma mère. Mais je pense que c'est peut-être plus dans mes relations au sens sentimental. Et dans la sexualité, c'est autre chose, tu vois. Genre ça, c'est vraiment beaucoup plus éloigné d'elle et je lui en parle pas ou peu. Mais là, je sens que je grandis et que j'arrive vers une période de ma vie où je commence à me sentir un peu plus à l'aise, où j'ai moins ce truc dont je te parlais de je veux pas du tout qu'elle m'imagine sexualisée et moi, je veux pas du tout l'imaginer sexualisée. Enfin, moi, c'était vraiment de l'ordre du dégoût d'imaginer ma mère avec un homme dans un rapport sexuel, tu vois. C'était vraiment un dégoût profond, alors que j'avais des amis qui n'étaient pas du tout comme ça. Et donc je sens qu'il y avait quand même un truc qui découlait vraiment de notre relation très fusionnelle, tu vois.
Comment tes premiers rapports amoureux et sexuels se sont-ils déroulés ?
Toute première entrée en sexualité, c'était avec mon mec. C'était il y a longtemps, un peu maintenant. Et bah, ça s'est bien passé. Enfin, le seul truc, c'est que j'étais pas très à l'aise. Mais j'étais contente, tu vois. Enfin, ça s'est bien passé. Mais j'étais pas extrêmement à l'aise parce que tu découvres un truc. Et puis j'étais pas folle amoureuse. C'était plus une première relation, mais pas un premier amour. Et plus tard, ma première fois, du coup, sociétale, bah, c'était avec un mec. Enfin, j'espère que ma mère tombera pas sur ça. C'était avec un mec un peu que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je le connaissais depuis 4 heures. C'était le pote d'un pote et genre, on s'est jamais revus. Et ça s'est bien passé, comme je te dis, parce que tout a été respecté et que... Enfin, je me sentais dans un cadre, un espace safe. Mais en même temps, je pense... Je regrette pas du tout hein, cette expérience-là, mais... je pense que c'est quand même dommage que ça n'ait pas été fait avec un mec pour qui j'aurais eu des sentiments. Pas parce que ça se serait mieux passé, mais je pense que ça aurait juste été peut-être un peu plus sympa comme première expérience, tu vois. Genre, oui, j'aurais été plus dedans, il y aurait peut-être une connexion corporelle plus forte et tout. Mais bon, ça s'est pas du tout mal passé. Enfin, je regrette pas, en tout cas, ce truc de... ok, ma première fois, donc aux yeux de la société, tu vois. Genre, prélit, rapport... pénétratif, je sais pas si le mot pénétratif existe, mais on va le dire. J'ai perdu ma phrase. Oui, non, je regrette pas que ça se soit pas fait avec un mec dont j'étais folle amoureuse. Enfin, ça, c'est un truc avec lequel j'étais très au clair à cette époque-là, et je suis toujours au clair avec ça. Pour moi, la première fois, les premières fois, tu t'appelles ça comme tu veux, ça n'a pas à être avec quelqu'un dont t'es folle amoureuse, ou il n'y a pas besoin de durer, genre ça fait 6 mois qu'on se connaît, ou quoi, pas du tout. Je comprends totalement qu'on pense ça. Et vraiment, ça s'entend, mais il n'y a pas du tout de normes à avoir. Enfin, vraiment, tu le fais avec qui tu veux, tant que tu es à l'aise avec ton corps et que la personne te met à l'aise aussi avec ton corps. Ce qui est assez étrange, c'est que la perte de mon hymen, que du coup, on m'avait toujours présenté comme un truc qui va se passer pendant ma première fois, donc vraiment, genre, rapport, pénis-vagin, bah, ça ne s'est pas passé pendant cette fameuse première fois. Donc, la première fois avec ce mec que je ne connaissais pas trop, machin. Ça s'est passé avec un autre mec. Avec qui j'étais pas en couple, mais en gros c'était un truc un peu récurrent tous les ans, on va dire. Et c'était à travers des prélits que j'ai commencé à saigner. Et c'est aussi à travers ça que je me suis dit, ok, donc en fait c'est n'importe quoi les schémas et les codes qu'on nous donne. Parce que bah, regarde ce qui vient de t'arriver. Déjà, on m'avait déjà dit auparavant qu'il y a des meufs à qui ça n'arrive pas du tout. Enfin, j'étais quand même un peu déconstruite sur l'hymen. Genre, je me disais, ok. C'est pas un truc qui arrive nécessairement à tout le monde, et puis tu peux avoir ton premier rapport et ça n'arrive pas. Mais par contre, on m'avait jamais dit que c'était possible que ça m'arrive sans que ça soit en fait une pénétration pénis. Et c'est là que je suis un peu tombée des nues. Je me suis dit, ah ok, donc en fait ça peut arriver.
Ça veut dire quoi, première fois pour toi?
La première fois de base, c'est ce qu'on m'a inculqué, donc rapport très concret qui commence par tel et tel prélit, et ensuite qui... En fait, les prélits sont juste un terrain de préparation à la pénétration, donc pénis dans vagin. Et ça, c'est la première fois. Et ça se déroule comme ça. Et après, ensuite, tu finis et c'est tout. Et c'est sympa, voilà. Sauf qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la sexualité, je me suis rendu compte d'à quel point les prélits étaient des premières fois pour moi. Enfin, c'était des premières rencontres avec une autre personne, et du coup, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout mis en valeur, mis en lumière, alors que c'est juste essentiel, parce qu'il y a quelque chose de très 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 intime à faire les premiers préliminaires, enfin peu importe n'importe quel préliminaire, tu vois, que ce soit cunnilingus, branler un mec ou branler une fille, ou fellation et tout, enfin, c'est des choses qui sont très intimes et qui devraient pas être vues comme un seul terrain de préparation à une pénétration après, puisqu'en fait c'est beaucoup trop restreint de voir les choses de cette façon-là. Bon, premièrement, on va pas partir sur un truc pendant des heures, mais quand même c'est très très hétérocentré, quoi. Enfin, c'est ça, c'est évident. Et ça, j'en ai déjà parlé avec genre une amie lesbienne, de à quel point du coup tu corresponds pas à cette norme. Et enfin, c'est je pense que c'est à travers le lesbianisme que je me suis rendu compte que c'était complètement artificiel de voir la première fois comme ça, parce que ça voudrait dire qu'en gros ma pote lesbienne elle me raconte qu'elle a fait sa première fois avec sa meuf, mais en fait elle a pas fait sa première fois parce que genre elle avait pas de god ou des trucs comme ça, enfin ça a juste pas de sens, tu vois. Donc ça m'a permis un peu de sortir de cette vision là très pénétration, et en même temps je pense que c'est dur d'en sortir à 100% et de sacraliser vraiment ce qu'on appelle les préliminaires. Donc c'est compliqué, et là pour l'instant que la réponse que j'ai à l'heure actuelle, c'est que j'ai des premières fois, c'est-à-dire dans deux grandes catégories, c'est-à-dire toutes les premières fois que j'ai eues concrètement de mes premières pratiques, donc la première fois qui s'est passée telle ou telle chose, c'était des premières fois, genre le premier cunnilingus, la première fellation, c'était des premières fois, et puis aussi, deuxième autre grande catégorie, juste en fait accepter que chaque nouvelle personne, c'est une première fois pour moi, parce que c'est un nouveau corps, c'est une nouvelle mentalité, une nouvelle, un nouveau regard sur la sexualité, enfin tu vois. Donc même si c'est des pratiques que j'ai déjà faites, que j'ai déjà vécues, bah en fait ça sera jamais 100% la même chose, parce que c'est juste pas la même personne et pas la même relation, tu vois. C'est nécessairement pas la même chose quand t'es en couple depuis 3 ans, quand c'est un coup d'un soir, quand c'est un plan cul, quand c'est un mec que tu dates dont t'es amoureuse, mais genre vous sortez pas ensemble, enfin c'est ça. c'est pas du tout la même chose, et t'as pas la même pression, t'as pas la même envie, enfin donc en fait c'est des premières fois multiples et qui s'arrêtent jamais.
Est-ce que le féminisme joue un rôle dans ta sexualité?
Oui, à 100%. Le féminisme, ça a été vraiment, c'est vraiment une découverte de tellement, tellement, tellement de choses. Et donc, sentimentalement, c'est un grand chamboulement, parce que quand tu fais tes premiers pas dans le féminisme et que t'es soit hétéro, soit bi, enfin, en tout cas, t'entretiens des relations sentimentales avec des hommes, je pense que tu te confrontes nécessairement à une sorte de paradoxe. Enfin, c'est très compliqué, parce que d'un côté, que ça soit dans certains podcasts que j'ai pu écouter ou certains livres que j'ai pu lire sur les relations hétérosexuelles, d'un côté, t'as une sorte d'inégalité sociétale femme-homme qui, du coup, se ressent directement dans les rapports, que ce soit sexuels ou sentimentaux. D'un autre côté, tu peux pas nier ta propre identité, genre tu peux pas non plus te forcer du jour au lendemain à te dire « Ok, je suis plus du tout attirée par les hommes. » Donc ça, c'est un peu compliqué, donc c'est dur en fait de tirer le bon des deux, genre de pas ternir ton féminisme à cause de certaines relations, et de pas non plus vraiment ternir certaines relations à cause de tes nouvelles découvertes féministes. Enfin, c'est très très compliqué, je pense, de garder un équilibre, parce que ouais, bah c'est hyper hyper paradoxal et opposé d'avoir d'un côté ton hétérosexualité ou bisexualité et de l'autre toutes tes lectures qui te donnent des statistiques, qui te donnent des explications de comment ça se passe et comment ça s'est toujours passé. Enfin, ça c'est un peu compliqué, et par rapport à la sexualité, ouais, forcément ça a apporté plein de choses aussi, de, ouais, comme je te dis, de mettre la communication au centre, de déconstruire tout ce que je dis jusqu'à présent, de déconstruire la première fois, tout ça, le truc très hétéro centré et puis très pénétration centrée, enfin tout ça. Et puis aussi, ce qui est chiant, je pense, c'est que je sais que parfois, je vais peut-être avoir tendance à pas mettre le féminisme de côté, mais parfois me lisser un peu sur certaines thématiques, certains discours, au profit d'un mec qui me plaît ou quoi. Non pas que je relationne avec des mecs antiféministes, parce que ça, c'est pas possible. Mais tu sais, tu vas... Ça va peut-être nuire un peu à ta... Ton engagement, ta colère aussi militante ou des trucs comme ça. Ouais, ça, je le mets un peu de côté. Genre, tu te dis, ok, bon, bah, je vais peut-être un peu moins parler d'écriture inclusive ou je vais... que des trucs comme ça. Enfin, là, je te donne écriture inclusive comme un exemple, mais plein de trucs comme ça où tu vas te dire, ok, je vais peut-être un peu moins dire des trucs comme men are trash, des trucs comme ça, tu vois. Genre, tu continues de les penser et en même temps, tu les mets un peu de côté parce que tu te dis, bah, je relationne avec un mec et donc, comment relationner avec un mec si tu dis... Si tu lui dis men are trash, parce que du coup, bah, il va pas comprendre. Et donc, soit il va pas comprendre et c'est la fin, soit il va pas comprendre et il va falloir se lancer dans une pédagogie. Bon, donc, comment dire? Je mets pas du tout de côté à 100% mes engagements, mais juste quand tu continues à tenir des discours un peu féministes et que tu relationnes avec un mec, que ce soit couple ou non, tu vois, enfin, peu importe, il va falloir que t'acceptes... que t'as une pédagogie à faire et c'est ça qui est un peu chiant parce que vraiment peu importe les mecs auxquels je pense, enfin il y avait un mec tu vois typiquement il est très intelligent, il est très cool et on s'entend extrêmement bien et c'est le seul mec dont j'ai été vraiment amoureuse. Bon bah, c'est vraiment une relation privilégiée tu vois, mais je sais que pour des trucs tout con, enfin qui pour moi sont de l'ordre de l'évidence, donc par exemple l'écriture inclusive, je sais que bah, il était pas au point et qu'il y avait un truc un peu pédagogique. Donc, tu vois, je pense que ouais, cet exemple, il est parlant parce que du coup, il y a ce mec dont je suis amoureuse qui est pas du tout... qui se revendique pas du tout antiféministe, Dieu merci, mais qui va pas être du tout au même stade que moi dans le féminisme, qui fait pas du tout des lectures par lui-même, ou qui écoute pas des podcasts par lui-même, etc. Et du coup, bah... Vu que t'es amoureuse de lui, tu le mets forcément en avant lui. Et ça, je pense que ça... Enfin, pas ça ternit, mais ça met un peu de côté ton féminisme à certains égards, tu vois. Parce que, bah, du coup, c'est vraiment lui qui t'accapare le plus. Et tu te dis, ok, bon, bah, je vais mettre un peu le reste de côté.
Est-ce que t'as pu éprouver une forme de culpabilité à pas forcément allier, comme tu le souhaiterais, féminisme et relations hétérosexuelles?
Ouais, je pense que j'ai pu l'éprouver et maintenant c'est moins le cas parce que je crois que maintenant je suis plus stable sur ça. C'est-à-dire que je me dis, ok, je peux relationner avec des mecs et à côté ça ternira pas mon engagement parce qu'en gros, bah, maintenant je me dis juste, si le mec ne comprend pas, bah, il s'en va, enfin, genre, ça m'intéresse pas. Ce mec, en vrai, où, ouais, parfois je me disais quand même, je mets mes engagements, mes discours... Enfin, c'est pas que je les mets de côté, mais je les lissais un peu, tu vois. Et ouais, je les faisais un peu plus correspondre à sa vision des choses ou quoi. Je les rendais ouais, plus lisses. Et maintenant, c'est plus le cas parce que je me dis que ouais, peu importe le mec avec qui je relationnerai, bah, soit il accepte, soit il est curieux et on discute, mais pas en mode pédagogie. Je vais pas lui faire des cours ou quoi. C'est-à-dire que s'il est vraiment curieux, je lui passe des livres, des trucs comme ça, et ça, c'est top. Mais sinon, au-delà de ça... Enfin, en fait, maintenant, je me pose plus la question. C'est plus possible que je mette mes engagements de côté. Et donc, si tu relationnes avec moi, tu dois accepter que l'écriture inclusive, c'est une évidence pour moi. Et soit tu essaies de comprendre, soit tu m'en parles pas, mais voilà. Et tu dois essayer de comprendre pourquoi les féministes disent men are trash et essayer de sortir de ta vision à toi de je suis un mec bien et mon père est un mec bien, puisque ça suffit pas. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, je le mets pas de côté. Je reste un peu ouverte aux discussions, mais je suis pas là non plus pour faire tout le travail du mec, tu vois.
T'as grandi avec l'idée que l'hétérosexualité, c'était la norme ?
Oui. Quand j'étais en primaire, en fait, j'avais tout le temps des crushs. C'était un truc systématique, mais qui était presque de l'ordre de l'obligation. C'est-à-dire, chaque année, je me disais, ok, cette année, ça va être qui mon crush ? Et c'était nécessairement un garçon. Il n'y avait aucune question à se poser sur les filles. Les filles, c'était mes amis. Au collège, c'était encore un peu la même chose. En vrai, oui, c'était vraiment très, 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 très garçon, désir masculin, parce que c'est ce que je lisais, parce que c'est ce que je voyais, et du coup, ça me semblait normal. Après, sans homophobie à côté du tout, enfin, ça, j'ai pas eu ces discours-là proches de moi, donc ça c'est génial. Donc enfin, j'ai toujours été j'ai toujours été consciente qu'il y avait l'homosexualité à côté, mais c'était à côté. Je pense que la découverte d'une sortie de l'hétérosexualité, ça s'est fait essentiellement parce que je me sentais mieux, mais aussi à travers les discours féministes, en fait. Enfin, toute la découverte du féminisme, du coup c'est assez récent pour moi, bah, ça m'a ouvert de nouvelles portes sur ma sexualité. Je me suis dit, ok, en fait le discours que j'avais avant de... oui, je suis ouverte aux filles, mais je sais que c'est les garçons, mais ça pourrait être une fille un jour. Je l'ai un peu... j'ai un peu mieux écouté mes pensées. Je me suis dit, ah non, mais en fait, si je pense ça, c'est pas juste, ok, je suis ouverte aux filles, mais et peut-être que ça m'arrivera un jour. En fait, je désire des filles, et ça peut m'arriver, et c'est pas parce que je suis jamais sortie avec une fille que ça n'arrivera pas.
Est-ce que t'as ce sentiment dont on entend souvent parler, de jamais être sortie avec une femme et du coup se sentir toujours un peu illégitime à parler de bisexualité?
Ouais, bah pareil, là encore une fois c'est un peu, t'as un peu une sorte de dichotomie, parce que d'un côté je suis très à l'aise parce que je suis très bien entourée, du coup quand j'ai commencé à en parler un peu plus, quand j'ai commencé à vraiment le mettre plus sur le devant de mon identité, on va dire, et que je l'ai un peu érigé comme un pilier, ça a été vraiment bien accueilli par tout le monde. Enfin, ça, j'ai pas eu de problèmes qui se sont posés à moi. Donc ça, c'est génial, que ce soit par rapport à mes amis ou ma mère. Et en même temps, de l'autre côté, ouais, c'est exactement ce que tu dis. Ce côté, on va pas me prendre au sérieux. Et t'as une peur permanente de te dire, est-ce que les gens vont pas juste penser que je fais un peu mon intéressante, ou même vont pas le rapprocher trop vite du féminisme, en mode, ok, elle a été déçue par les hommes, et donc en fait c'est juste pour ça qu'elle s'intéresse aux filles, tu vois. Ça, c'est un peu cette peur permanente là, et je sais que, enfin là, à l'heure actuelle, ça va peut-être un peu mieux, parce que ma mère a évolué sur ça aussi, c'est-à-dire que, comme je te dis, elle l'a accueillie très bien quand je lui en ai parlé, elle était un peu surprise, mais pas du tout... choquée profondément ou quoi, enfin juste elle s'est dit, ah ok, d'accord. Mais en même temps, elle pouvait encore me tenir des discours à côté, donc qui parlaient pas de moi, elle se référait pas à mon identité directement, sauf qu'en même temps, elle parlait complètement de moi, elle disait qu'en gros, aujourd'hui, la bisexualité, il y a quand même peut-être un peu un effet de mode, et tu vois, enfin, ouais, c'est cette idée-là, que j'ai déjà entendue aussi chez des proches à moi, que ce soit genre... des gens très 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 proches, genre meilleure amie ou quoi. Donc en fait, que ce soit ma mère ou cette meilleure amie ou d'autres gens, ils parlaient jamais de moi. Ils me disaient pas, non mais, frontalement, tu vois, non mais meuf, toi c'est impossible que tu sois bisexuelle, t'es jamais sortie avec quelqu'un. Par contre, ils pouvaient se référer à la société en général qui était un peu comme ça, ou à telle personne qui se revendiquait bi, tu vois. Et ils me disaient, bah non mais, tu vois bien, elle est jamais sortie avec une meuf, donc je vois pas pourquoi elle serait bi, elle s'invente un truc et tout. Et toi, t'entends ça et tu te dis, ok, donc on parle pas de moi, mais là, ce que tu dis, c'est exactement ma situation. Donc, en fait, qu'est-ce que tu penses de moi et qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Mais maintenant, ça va mieux parce que, ouais, je crois que tout le monde l'a globalement accepté. Et même là, dernier progrès très récemment, qui m'a fait très plaisir, enfin, c'est vraiment symbolique et c'est anecdotique, mais ma mère, elle m'a dit, parce que je prépare un voyage pour dans pas très longtemps, et ma mère, elle m'a dit, bon, bah, tu nous ramèneras peut-être un Argentin. Vu que je pars en Argentine, elle a fait une petite pause et après elle a dit ou une Argentine. Et c'est hyper anecdotique, tu vois, mais j'étais vraiment contente et je me suis dit, ok, le truc est un peu plus abouti qu'avant.
Est-ce que le regard masculin a impacté tes relations avec les filles?
Je pense que le regard masculin, c'est la première chose qui nuit directement à une potentielle sororité. Et bah oui, forcément, au collège, tu te sens... au collège et plus tard, hein. Là je parle vraiment de ça parce que c'était la période la plus compliquée pour le regard sur soi. T'as comme une concurrence, une compétition permanente avec les autres filles, parce que même si c'est tes amis et que tu les adores, que vous êtes très proches, tu te dis quand même, ok, son corps est plus désirable et donc je suis forcément inférieure à elle, en tout cas par rapport au regard masculin. Donc ça, c'est pas très simple, je pense.
Et est-ce que t'as réussi à t'en détacher ou c'est toujours un truc qui est là?
Je pense que c'est impossible de dire que je me suis détachée à 100% du regard masculin. Genre c'est vraiment un truc qui se travaille sur des années et des années et qui est vraiment, vraiment compliqué dans la société dans laquelle on vit. Après, ça va beaucoup mieux. ça va vraiment beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus dans des attitudes sororales avec mes amis et je les mets beaucoup plus sur un piédestal que le regard masculin. Donc ça, bon, je suis très très contente. Enfin oui, je les valorise beaucoup plus et on s'encense un peu entre nous, tu vois. Genre on met un peu en lumière nos corps et nos personnalités respectives et ça fait beaucoup de bien. Après, je pense que je me suis toujours pas sortie du regard masculin, tu sais, genre dans la rue, dans les soirées, dans la vie générale, mais que ça nuit moins à mes relations, à mes amitiés féminines, on va dire. Ça nuit plus à... Aujourd'hui, c'est plus un stade individuel, ça nuit plus à mon bien-être ou à mon propre amour de moi, tu vois. Mais mes amitiés, ça, je pense que ça va mieux.
Si tu devais me donner 3 choses que le féminisme t'a apporté, ce serait quoi ?
Waouh ! Alors, la première chose, c'est vraiment incontournable, je pense que c'est la sororité. Genre le côté de te rendre compte de ce que c'est les pick-me, de se rendre compte de ce que c'est toute la misogynie intériorisée et du coup de la déconstruire. Enfin, je pense qu'on peut pas dire que je sois une personne déconstruite, enfin qu'aucune femme soit une personne déconstruite, tu vois. Mais en cours de déconstruction perpétuelle, ça c'est très très cool. Et du coup, ouais, sororité, de mettre les filles et les femmes de mon entourage sur vraiment un piédestal parce qu'elles m'ont apporté et m'apportent énormément, que ce soit ma mère ou mes amis. Donc, ouais, sororité, dégagement un peu du regard masculin. Encore une fois, j'en suis vraiment, vraiment pas du tout sortie, c'est très compliqué. Mais ça, récemment, par mes écoutes, surtout des podcasts centrés, genre féministes, mais sur l'amour, tu vois. Donc, que ce soit genre Le cœur sur la table ou le livre que j'avais lu là, de Mona Chollet, Réinventer l'amour, ça m'a vraiment permis de me dire, ok, en fait, je suis une meuf indépendante qui doit connaître sa valeur à travers elle-même et à travers ses relations amicales, etc. Mais en fait, les relations sentimentales, donc notamment masculines, sont pas au centre de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, le regard masculin existe toujours, mais maintenant, je suis plus consciente que en fait, j'existe pour moi et j'existe pour les personnes qui m'apportent beaucoup de bonheur, donc ma mère, mes amis. Et ouais, le féminisme, ça m'a apporté un truc de... Ok, les relations sentimentales avec les mecs, notamment, sont plus secondaires et genre, on se calme, tu vois. Genre, c'est pas... J'en reviens à ce que je disais sur moi en primaire. Il n'y a pas de... j'ai un crush tous les ans et je vais vivre pour ça et c'est trop cool d'avoir un crush, nanana. Même si je suis une personne intrinsèquement très, très personne à crush et que ça continue. Enfin, je n'essaie pas de renier ma propre identité, tu vois. Mais... je le mets un peu plus sur le côté. Et ça m'a apporté aussi ce que je te disais, je pense, la découverte en vrai de la bisexualité. Genre la découverte et l'accueil d'une bisexualité pleine et heureuse.
Si tu devais adresser un mot à la toi du collège, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Mon Dieu, je lui dirais beaucoup de choses. Il y a tellement, tellement de choses à dire. Bah, je lui dirais qu'elle est normale déjà. Enfin, genre, je lui dirais que. Plusieurs années après, elle se rendra compte qu'en fait, toutes ses potes regardaient du porno à 12 ans et que c'était pas grave du tout. Que c'est pas du tout grave de vouloir jouer au polypocket et de vouloir regarder des pornos le lendemain. Je lui dirais que... ça va être hyper pathétique, mais en même temps, c'est vraiment ce qu'il faut que je me dise. Je lui dirais que les mecs qui se foutent de sa gueule en pleine salle de classe et qui la comparent à un iPhone, parce qu'elle est plate... Bah, ces mecs, c'est juste des teubs et qui sont hyper cons et que c'est pas grave du tout parce qu'en fait, plus tard, je vais vivre plein de relations super et que je vais me sentir désirée plein de fois et que... Enfin, voilà, que c'est pas irrémédiable, tu vois, et que... Enfin, c'est pas parce qu'au collège, je me sentais hyper mal par rapport à ça et qu'on me malmenait un peu que maintenant, c'est toujours le cas du tout. Enfin, ne serait-ce que par l'évolution que j'ai eue sur mes seins ou sur mes poils, ça c'était vraiment deux grands sujets au collège qui nuisaient totalement à ma confiance en moi, avec plein d'autres trucs, tu vois. Vraiment, le collège c'était terrible, mais là à l'heure actuelle, c'est des trucs qui vont vraiment, vraiment beaucoup mieux, genre à 100%. Donc, je lui dirais ça, et puis je pense que je lui dirais que sentimentalement, moins que sexuellement, elle est pas au bout de ses peines. Parce que bah, là, on est presque 8-10 ans après. Et je viens à peine de vivre le truc le plus dur sentimentalement. Donc elle est pas au bout de ses peines, mais en même temps, elle est beaucoup, beaucoup plus forte que ce qu'elle ne peut imaginer. Quand on parle de maltraitance, il faut pas entendre simplement quelque chose de très physique ou vraiment une violence psychologique un peu choquante, mais aussi juste les trucs un peu plus lambda, mais qui sont en fait assez communs, j'ai l'impression, dans les relations hommes-femmes, et surtout à notre âge, de si le mec veut pas se mettre en couple avec toi, ou ne veut pas accorder autant de temps à la relation que toi, etc., bah ça aussi c'est une forme de maltraitance, et je dis pas du tout ça en mode discours hyper pathétique, hyper pathos ou quoi, juste vraiment c'est une forme de relation pas ouf, qui t'apportera pas ce qu'elle devrait t'apporter, du coup bah meuf, casse-toi, et ça se trouve ça sera pour le mieux, parce que peut-être que vous vous retrouverez plus tard, ou peut-être que vous vous retrouverez jamais, et que vous étiez juste pas spécialement fait l'un pour l'autre, mais voilà, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça mon mot de la fin, on dirait une grosse rageuse, c'est un peu le cas, mais c'est aussi pour dire que, enfin vraiment moi j'aurais aimé qu'on me dise ça davantage.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Journal des Vulves. Et merci à l'invité d'avoir pris la parole sur un sujet aussi tabou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et si vous voulez être la prochaine voix au micro, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux.